8. Racontez-nous l'histoire. Mon histoire, demanda Roland. King s'appuya contre le comptoir de la cuisine, et le sommet de son crâne se glissa dans un rayon de soleil. Il avala une gorgée de bière et réfléchit à la requête de Roland. Et c'est alors qu'Eddie le vit pour la première fois, très faiblement. Un effet de contraste dû au soleil, peut-être. Quelque chose. Une ombre noire et poussiéreuse, formée comme un halo autour de l'homme. Dim, à peine visible, mais bien là, comme les ténèbres qui se cachaient derrière les choses quand on allait va à Dash. Était-ce la même chose? Eddie en doutait. À peine visible, mais bien là. « Vous savez, » dit King, « je ne suis pas très bon pour raconter des histoires. » Ça peut paraître paradoxal, pourtant c'est vrai. C'est pour ça que je les écris. Est-ce que c'est comme Roland ou comme moi qu'il parle? Se demanda Eddie. Impossible de le dire. Beaucoup plus tard, il devait se rendre compte que King parlait comme eux tous. Même Rosa Munoz, la femme à tout faire du père Callahan à la Cala. Puis le visage de l'auteur s'éclaira. Je vais vous dire pourquoi j'essaierai pas de trouver ce manuscrit. J'ai 4 ou 5 cartons d'histoire foutus en bas. La tour sombre doit dormir dans l'un d'entre eux. Foutus? Des histoires foutues? Eddie n'aimait pas du tout sa façon de tourner les choses. Vous pourriez en lire des passages pendant que je vais chercher mon garçon. Il sourit, dévoilant de grandes dents tordues. Peut-être que quand je rentrerai, vous serez parti et je pourrai me remettre à écrire en pensant que vous n'êtes jamais venu. Eddie adressa un regard à Roland, qui secoua légèrement la tête. Sur le poêle, la première bulle de café cligna dans l'œil de la cafetière.
Say King, commença Eddie. Steve, d'accord. Il nous faut régler cette affaire maintenant. Mis à part la question de confiance, nous sommes extrêmement pressés.
Bien sûr, d'accord, la course contre la montre, dit King. Puis il se mit à rire. Il y avait dans ce rire un côté niais assez charmant. Eddie soupçonna que la bière commençait à faire son effet, et il se demanda si ce type n'était pas un peu poivreau. Impossible d'en être certain au bout de si peu de temps, mais il présentait certains des signes. Il ne se rappelait pas grand-chose de ses cours de littérature au lycée, mais il revoyait très bien le prof leur dire qu'il y avait bien une chose que les écrivains appréciaient particulièrement. C'était la bouteille. Hemingway, Faulkner, Fitzgerald, le type du corbeau. Les écrivains aimaient boire. « Je me moque pas de vous, les gars. En fait, c'est contre ma religion de me moquer d'hommes armés. » C'est juste que c'est exactement le genre de bouquin que j'écris, des personnages toujours en train de courir contre la montre. Vous voulez entendre la première phrase de La Tour Sombre ?
Bien sûr, si vous vous en souvenez,
répondit le jeune homme. Roland ne dit rien, mais ses yeux brillaient, sous ses sourcils maintenant parsemés de blanc. Oh, ça, pour m'en souvenir, c'est sans doute la meilleure phrase que j'ai écrite. King repoussa sa bière, puis leva les deux mains, le pouce et l'index courbés, comme s'il dessinait des guillemets dans l'air. L'homme en noir fuyait à travers le désert, et le pistolero le suivait. Le reste, c'était peut-être de la poudre aux yeux, mais, mon vieux, ça c'était bon. Il laissa retomber ses mains et reprit sa bière. Pour la 49e fois aujourd'hui, est-ce que tout cela est bien réel ?
L'homme en noir, il s'appelait Walter ?
Demanda Roland. La bière de King vacilla et rata sa bouche, et il s'en renversa sur le menton et sur sa chemise propre. Roland hocha la tête, comme si c'était la réponse qu'il attendait.
Ne refaites pas le coup de l'évanouissement, recommanda Eddie un peu durement. Une fois a suffi à m'impressionner.
King acquiesça, reprit une gorgée de bière tout en essayant visiblement de se ressaisir. Il jeta un œil à la pendule.
« Messieurs, vous me laisserez vraiment aller chercher mon garçon ?»«
Oui, » confirma Roland.
« Vous... »
King fit une pause, parut réfléchir, puis sourit. Vous en jureriez par votre montre et votre billet ? Sans sourire, Roland te répondit.
Oui, j'en jurerai.
Ok, alors, la tour sombre, version courte à la Reader's Digest. Rappelez-vous que l'oral n'est pas mon truc. Je vais faire de mon mieux.
9. Roland écouta ce récit comme si tous les mondes en dépendaient, ce dont il était convaincu. King avait commencé sa version de la vie de Roland par les feux de camp, ce qui ravit le pistolero, parce qu'il confirmait le caractère essentiellement humain de Walter. Puis, d'après King, l'histoire revenait à la rencontre de Roland avec un drôle de fermier du bout du monde, au bord du désert. Brown, de son nom.
« Longue vie à vos récoltes », entendit Roland à travers l'écho des ans. « Longue vie aux vôtres. »
Il avait oublié Brown et son corbeau apprivoisé Zoltan, mais cet inconnu s'en souvenait. « Ce qui me plaisait, » glissa King, « c'est que j'avais l'impression que l'histoire allait à reculons. D'un point de vue purement technique, c'était très intéressant. Je commence par vous, dans le désert, puis je recule un chouïa et vous rencontrez Brown et Zoltan. » Zoltan, c'était le nom d'un chanteur et guitariste que j'ai connu à l'université du Maine, au fait. Bref, de la baraque du frontalier, l'histoire se décale encore d'un chouïa et vous arrivez dans la ville de Tull, du nom d'un groupe de rock.
« Jethro Tull !» s'exclama Heidi. « Mais bon sang, c'est bien sûr. Je savais bien que ce nom m'était familier. Et ZZ Top, Steve, vous les connaissez ?»
Heidi fixa King, lut l'incompréhension sur son visage et sourit.
J'imagine que ce n'est pas encore tout à fait leur camp. Ou alors, vous ne les connaissez pas encore.
Roland fit tourner ses doigts au moulinet.
On continue.
Et lança à Eddie un regard qui lui intimait de ne plus interrompre King.
Quoi qu'il en soit, quand Roland arrive à Tull, nouvelle digression pour raconter comment Nort, le mangeur d'herbe, est mort avant de se faire ressusciter par Walter.
Vous voyez ce qui m'a tellement plu, pas vrai? C'est qu'une fois encore, on commence par la fin et on remonte en l'air.
Roland n'était pas intéressé le moins du monde par l'aspect technique qui fascinait apparemment King. C'était de sa vie qu'on parlait après tout. De sa vie. Et pour lui, elle s'était déroulée dans le bon sens. Du moins jusqu'au moment où il avait atteint le rivage de la mer Occidentale et qu'il avait tiré le jeu de ses compagnons de voyage. Mais Stephen King ne savait rien des portes, semblait-il. Il avait déjà écrit la scène du relais et la rencontre de Roland avec Jake Chambers, ainsi que leur traversée sous la montagne. Il avait écrit la trahison de Jake par cet homme à qui il avait donné sa confiance et son amour. King remarqua la façon qu'avait Roland de placer sa tête pendant cette partie du récit et se mit à raconter avec une douceur étrange.
« Pas besoin de prendre un air aussi honteux, monsieur Deschaine. Après tout, c'est moi qui vous ai fait faire une chose pareille. » Mais une fois encore, Roland se demanda s'il disait vrai.
King avait aussi écrit la palabre de Roland avec Walter, dans le Golgotha poussiéreux et jonché d'ossements. La prédiction du tarot et la terrible vision de Roland, cette sensation de traverser la voûte de l'univers. Il avait écrit le réveil de Roland après cette longue nuit de bonne aventure, pour se retrouver beaucoup plus âgé, et Walter réduit à un tas d'os. Pour finir, leur dit King, il avait fait avancer Roland jusqu'au bord de l'eau et l'avait assis là. Et là, vous avez dit « Je t'aimais, Jake ». Roland hocha la tête et commenta d'un ton neutre
« Je l'aime toujours ».
Vous parlez comme s'il existait vraiment. Roland lui adressa un regard impassible.
« Est-ce que moi j'existe ? Et vous ?»
King ne répondit rien.
Et alors, que s'est-il passé ?
Demanda Heidi. Et alors, Seigneur, je me suis retrouvé à sec, ou intimidé, si vous préférez, et je me suis arrêté.
Eddie aussi désirait s'arrêter. Il voyait les ombres qui commençaient à s'allonger sur le sol et les murs de la cuisine, et il voulait partir à la recherche de Susanna avant qu'il soit trop tard. Pour lui, Roland et lui avaient une idée assez précise de la manière de sortir de ce monde, et il soupçonnait Stephen King lui-même de savoir parfaitement les conduire au chemin du dos de la tortue, à Lovell, où le réel ne tenait plus qu'à un fil, à en croire John Cullum du moins, et où les entrants couraient les rues dernièrement. Et King serait trop heureux de les guider, trop heureux de se débarrasser d'eux. Mais il ne pouvait partir tout de suite, et malgré son impatience, Eddie en était parfaitement conscient.
« Vous vous êtes arrêté parce que vous avez perdu votre plan, » dit Roland.
« Mon plan ? Oh non, pas vraiment !» King s'était servi une troisième bière, et Eddie ne trouvait pas étonnant que le type commence à se ramollir un peu du ciboulot. Il venait d'avaler l'équivalent calorique d'un pain entier, et il attaquait actuellement la deuxième miche.
Je travaille rarement à partir d'un plan. En fait, ne me prenez pas au mot, mais ça a sans doute été la seule fois, et c'est devenu trop gros pour moi, trop étrange. Et puis, vous avez commencé à poser problème, monsieur, ou Sai, quels que soient les fichus surnoms que vous vous donniez.
King fit la grimace.
Cette façon de parler, ce n'est pas moi qui l'ai inventée.
Pas encore, en tout cas, fit remarquer Roland.
Vous avez commencé cette histoire comme une version de l'homme sans nom de Sergio Leone.
Dans les westerns spaghetti, fit Eddie.
Jésus, bien sûr, j'ai dû en voir 100 au Majestic avec mon frère Henry avant qu'il quitte la maison. Quand il était au Vietnam, j'y allais tout seul, ou avec un copain à moi, Chuggy Cotter. C'était des films de mecs.
King exhibait un large sourire.
« Ouais, » acquiesça-t-il. « Mais ma femme en est complètement fana, allez comprendre. »«
Trop cool, ta femme !»
s'exclama Eddie.
« Ouais, Tabby, c'est le genre de nana cool. »
King se tourna de nouveau vers Roland.
« Pour ce qui est de l'homme sans nom, une version imaginaire de Clint Eastwood, vous avez raison, l'association promettait une bonne tranche de rigolade. »
« C'est comme ça que vous voyez les choses ?»«
Oui. Et puis vous avez changé. Là, sous mes doigts. À tel point que je ne savais plus si vous étiez le héros, l'anti-héros ou pas un héros du tout. Quand vous avez lâché le gosse, c'était le bouquet. »«
Vous disiez que c'était vous qui m'aviez fait faire ça. »
Il regarda Roland droit dans les yeux. Du bleu croisé sur du bleu, sur fond de cœur enchanteur. King dit « J'ai menti, mon frère. » 10. Il y eut un temps de silence pendant lequel ils réfléchirent tous à ce qu'ils venaient de se dire. Puis King reprit la parole.
« Vous avez commencé à me faire peur, alors j'ai arrêté d'écrire sur vous. Je vous ai enfermé dans une boîte et rangé dans un tiroir, et puis j'ai continué le recueil de nouvelles que j'ai ensuite vendues à divers magazines. »
Il réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Après que je vous ai mis au rancard, les choses se sont mises à changer pour moi, mon ami. En bien. Mes trucs ont commencé à se vendre. J'ai demandé Tabby en mariage. Peu de temps après, j'ai commencé un livre intitulé « Carrie ». Ce n'était pas mon premier roman, mais c'est le premier que j'ai vendu, et il m'a fait passer directement en tête. Tout ça après avoir dit au revoir à Roland, à la revoyure, bonne route à toi. »
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je tourne au coin de ma maison 6 ou 7 ans plus tard et je vous trouve dans ma putain d'allée, gros gens comme devant, comme aurait dit ma mère. Et tout ce que je peux dire maintenant, c'est que vous prendre pour une hallucination causée par le surmenage serait la conclusion la plus optimiste que je pourrais trouver. Et je n'y crois pas une seconde.
Comment je pourrais y croire? King levait peu à peu la voix tout en montant dans les aigus. Eddie ne prit pas ça pour de la peur, c'était de l'indignation.
Comment je pourrais le croire quand je vois votre ombre sur le sol, le sang sur votre jambe?
Fit-il en pointant le doigt en direction d'Eddie.
Et la poussière sur votre visage?
À Roland, cette fois-ci.
Vous avez éliminé tous les foutus choix qui me restaient et je sens mon esprit en train de... Je sais pas, en train de basculer. C'est comme ça qu'on dit ? Je dirais que oui, en train de basculer.
Vous n'avez pas seulement arrêté,
dit Roland en ignorant totalement la dernière saillie de King. Un tas d'idioties nombrilistes et déplacées.
Ah non ?
Je pense que raconter des histoires, c'est comme pousser quelque chose. Pousser pour résister contre la non-création, peut-être. Et un jour, pendant que vous faisiez ça, vous avez senti une résistance. Vous avez senti que ça poussait en face.
King réfléchit à l'hypothèse et le temps parut extrêmement long à Eddie. Puis, il opina du chef.
Vous avez peut-être raison. Ça allait plus loin que l'habituel sentiment de panne, c'est certain. J'ai l'habitude de ça, même si ça m'arrive moins souvent qu'avant. C'est... Je sais pas, un jour on commence à trouver ça moins drôle de rester assis là à tapoter sur les touches d'un clavier. On commence à voir moins clair. On commence à se sentir moins excité à l'idée de raconter soi-même l'histoire. Et puis, pour tout arranger, il déboule une idée nouvelle, une idée toute belle et toute brillante, tout droit sortie de la vitrine sans une égratignure, complètement vierge, du moins pour l'instant. Et puis, comment dire ?
Et puis vous avez senti que ça résistait,
répéta Roland du même ton monocorde.
Ouais.
La voix de King était devenue tellement grave qu'Eddie l'entendit à peine.
Défense d'entrée. On ne passe pas.
Ligne à haute tension. Il marqua une pause.
Peut-être même danger de mort.
Quelque chose me dit que tu n'aimerais pas cette ombre que je vois tourbillonner autour de toi,
pensa Eddie.
Ce halo noir. Non, Sai, je ne pense pas que tu aimerais ça, pas du tout. Et qu'est-ce que je vois ? Les cigarettes ? La bière ? Une autre substance dont tu pourrais être dépendant éventuellement ? Un accident de voiture ? Un soir de beuverie ? Dans combien de temps ? En années ?
Il jeta un œil à la pendule posée sur la table de cuisine des King et fut consterné de lire qu'ils approchaient de 4h moins le quart de l'après-midi.
Roland, il se fait tard. Ce type doit aller chercher son gosse. Et nous devons trouver ma femme avant que Mia accouche du bébé qu'elles ont l'air de partager et que le roi cramoisi n'ait plus aucun besoin de la partie Susanna.
Roland te répondit.
Encore un tout petit peu.
Et il baissa la tête sans rien ajouter, pour réfléchir. Essayer de décider quelles questions étaient les bonnes. Une seule question peut-être, mais la bonne. Et c'était important, Eddie le savait, car jamais il ne pourrait revenir en ce 9e jour du mois de juillet 1977. Peut-être revisiterait-il cette journée dans un autre monde, mais pas dans celui-ci. Et Stephen King existerait-il seulement dans ces autres mondes ? Peut-être pas. Sans doute pas. Pendant que Roland réfléchissait, Eddie demanda à King si le nom de Blaine lui évoquait quelque chose.
Non, pas particulièrement. Et Led ?
Comme les Luddites. C'était une sorte de secte religieuse anti-machine, c'est ça ? Au 19e siècle, je crois bien, ou peut-être même qu'ils s'y sont mis plus tôt que ça. Si je ne m'abuse, ceux du 19e siècle pénétraient de force dans les usines pour réduire les machines en miettes. Il fit un grand sourire, découvrant ses dents tordues.
Les Greenpeace de leur époque, je dirais. Beryl Evans, ce nom vous dit quelque chose ?
Non.
Henschick ? Henschick des manies ?
Non. C'est quoi les manies ?
Trop compliqué à expliquer maintenant. Et Claudia et Inès Bachmann, est-ce que celui-là vous évoque ?
King explosa de rire, faisant sursauter Eddie. Se faisant sursauter lui-même à en juger par l'expression sur son visage.
La femme de Dicky, s'exclama-t-il. Comment diable êtes-vous au courant de ça ?
Je ne suis pas au courant.
Qui est Dicky ?
Richard Bachmann. Je me suis mis à publier certains de mes romans de jeunesse en grand format sous un pseudonyme, Bachmann.
Une nuit, alors que j'étais bien bourré, je lui ai concocté une vraie biographie, jusqu'à la façon dont il avait courageusement vaincu une leucémie. Hurrah, Dicky! Bref, Claudia, c'est sa femme. Claudia Inès Bachmann. Le Y, ça, je ne sais pas.
Eddie eut l'impression qu'un énorme caillou invisible venait de rouler de sa poitrine et de sortir définitivement de sa vie. Claudia Inès Bachmann ne comptait que 18 lettres. Quelque chose avait donc ajouté ce Y, et dans quel but? Pour faire 19, bien sûr. Claudia Bachmann n'était qu'un nom. Claudia Inès Bachmann, en revanche, elle était qu'à tête. Eddie eut le sentiment qu'il venait de trouver au moins une des choses pour lesquelles ils étaient venus ici. Oui, Stephen King les avait créés. Du moins avait-il créé Roland, Jake et le père Callahan. Il n'était pas encore arrivé au reste. Et il avait déplacé Roland comme un pion sur un échiquier. Un petit tour à Tull, Roland couche avec Ellie, Roland pourchasse Walter à travers le désert, Roland. Mais même quand il déplaçait son personnage principal sur le plateau de jeu, King lui-même s'était fait déplacer. Cette lettre ajoutée au nom de la femme de son pseudonyme le prouvait très clairement. Quelque chose avait voulu rendre Claudia Bachmann 19.
Alors, Steve?
Oui, Eddie de New York, répondit King avec un sourire gêné.
Eddie sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine.
Le chiffre 19, il vous inspire quoi?
King considéra la question. Dehors, le vent murmurait dans les arbres, les bateaux gémissaient et le corbeau, celui-là ou un autre, croassait. Bientôt, au bord de ce lac, ce serait l'heure des barbecues, peut-être aussi d'une virée en ville et d'un concert sur la place, tout ça dans le meilleur des mondes possibles. Ou peut-être seulement le plus réel. King finit par secouer la tête et Eddie laissa échapper un soupir de frustration.
« Désolé. » C'est un nombre premier, mais c'est tout ce qui me vient pour l'instant.
Les nombres premiers me fascinent, en quelque sorte. Depuis le cours d'algèbre de Monsieur Soitchak au lycée de Lisbon High. Et je crois que c'est l'âge que j'avais quand j'ai rencontré ma femme. Mais peut-être qu'elle me contredirait. Elle est de nature à contredire.
Et 99?
King y réfléchit de nouveau, puis parut compter des objets sur ses doigts. C'est sacrément vieux. 99 ans sur un vieux tas de pierres. C'est dans une chanson qui s'appelle, je crois, l'épave de 99 ans. Sauf qu'en parlant d'épave, c'est peut-être à l'épave de l'Hespérus que je pense. 99 bouteilles de bière sur le mur, on a pris une et on l'a fait tourner, ça fait plus que 98 bouteilles de bière sur le mur. En dehors de ça, nada.
Cette fois-ci, c'est King lui-même qui regarda en direction de la pendule.
Si je ne pars pas bientôt, Betty Jones va appeler pour vérifier que je n'ai pas oublié que j'avais un fils. Et après avoir récupéré Joe, je suis censé enchaîner 200 kilomètres de route en direction du nord. Ce qui sera sans doute plus facile si je laisse tomber la bière. Ce qui sera plus facile si je n'ai plus une paire de revenants armés assis dans ma cuisine.
Roland approuva d'un hochement de tête. Il porta la main à son ceinturon, en extirpa une balle, qu'il se mit à faire distraitement rouler entre le pouce et l'index de sa main gauche.
« Juste une dernière question, si cela vous sied. Puis nous reprendrons notre route et vous laisserons reprendre la vôtre. »
King fit oui de la tête.
« Posez-la alors. »
Il considéra sa troisième canette de bière, puis alla la vider dans l'évier avec un air de regret.
C'est vous qui avez écrit La Tour sombre?
Pour Eddie, cette question n'avait aucun sens, mais les yeux de King s'allumèrent et un sourire radieux lui illumina le visage.
Non, s'écria-t-il. Et si jamais un jour je fais un livre sur l'écriture, et je pourrais sans doute, c'est la matière que j'enseignais avant de me retirer ici pour écrire, je le dirai. Pas ça exactement. Je sais qu'il y a des écrivains qui écrivent vraiment, mais que je n'en fais pas partie. En fait,
quand je me retrouve à court d'inspiration et que je me raccroche à une intrigue, l'histoire sur laquelle je travaille tourne en eau de boudin en général.
« Je n'ai pas la moindre idée de quoi il parle »,
fit remarquer Eddie.
« C'est comme... génial !»
La douille roulant entre le pouce et l'index du pistolero avait sauté sans effort sur le dos de ses doigts, où elle semblait se promener sur les jointures en montagne russe de Roland.
« Oui, génial, n'est-ce pas ?»«
C'est comme ça que vous avez hypnotisé Jake au relais, quand vous lui avez fait se remémorer sa mort. »«
Et Suzanne ?»
pensa Eddie.
« Il a hypnotisé Suzanne de la même manière, sauf que tu ne le sais pas encore, Say King. Ou peut-être que si. Peut-être que quelque part à l'intérieur de toi, tu sais déjà tout. »«
J'ai essayé l'hypnose, » raconta King. « En fait, un type m'a fait monter sur scène à la foire de Topsham quand j'étais gamin. Il a essayé de me faire caqueter comme une poule. Ça n'a pas marché. C'est à peu près à l'époque de la mort de Buddy Holly et du Big Bopper. » Et de Richie Valence. Va, Dana. Ah, Discordia. »
Il secoua soudain la tête, comme pour la vider, puis son regard passa de la balle dansante au visage de Roland.
Quoi? J'ai dit quelque chose?
Non, Sai.
Roland baissa les yeux sur la balle acrobate. Elle allait et venait, allait et venait. Ce qui, très naturellement, ramena aussi le regard de King sur elle.
« Que se passe-t-il quand vous inventez une histoire ?»
l'interrogea Roland.
« Mon histoire, par exemple. »
« Ça vient tout seul, c'est tout. »
La voix de King avait de nouveau baissé. Il avait l'air perplexe.
« Ça me traverse comme un souffle d'air. Ça, c'est la partie chouette. Et puis ça ressort quand je bouge les doigts. Ça ne vient jamais de la tête. Ça sort du nombril ou dans le coin. » Il y avait un chroniqueur, je crois que c'était Maxwell Perkins, qui appelait Thomas Wolfe.
Eddie savait ce que Roland était en train de faire, et donc que l'interrompre n'était pas une bonne idée. Mais il ne put s'en empêcher.
Une rose. Une rose, une pierre, une porte dérobée.
Le visage de King s'illumina de plaisir, mais ses yeux ne quittèrent pas la balle qui dansait sur les jointures du pistolero.
« En fait, c'est une pierre, une feuille, une porte, » corrigea-t-il. « Mais ça me plaît encore plus avec la rose. »
Il était complètement envoûté. Eddie crut presque entendre le bruit de succion au moment où l'esprit conscient de King fut aspiré. L'idée le traversa soudain qu'une simple sonnerie de téléphone à cet instant critique pourrait changer tout le cours de leur existence. Il se leva et... se déplaçant en silence malgré sa jambe raidie et douloureuse, se dirigea vers le combiné accroché au mur. Il enroula le fil entre ses doigts et appuya jusqu'à ce qu'il l'entendît céder.
« Une rose, une pierre, une porte dérobée, » acquiesça King. « Ça pourrait être de Wolfe, aucun doute. Maxwell Perkins l'appelait le vent du carillon divin. » Oh, perdu et pleuré par le vent, tous ces visages oubliés. Oh, Discordia!
Comment l'histoire vous vient-elle, Sai?
Demanda Roland d'une voix posée.
Je n'aime pas ces types New Age, les types avec leurs pendules en cristal. Tout ce « pas d'importance, il n'y a qu'à tourner la page. Sauf quand ils appellent ça canaliser, et c'est l'impression que ça donne, comme quelque chose qui passe dans un canal.
« Ou dans un rayon ?»
suggéra Roland.
« Toutes choses servent le rayon, » dit l'auteur, et il soupira.
Ce soupir était d'une tristesse insondable. Dans toute son impuissance, Eddie sentit un immense frisson lui parcourir le dos.